Les marchandes de sable, fable de La Fontaine. Le loup devenu berger. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un haut coton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout de la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guyot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guyot le psychopante approche doucement, Guyot le vrai Guyot étendu sur l'herbette. Dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveilla à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cet esclandre, empêché par son haut coton, ne put ni fuir, ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre, quiconque est loup agisse en loup, c'est le plus certain de beaucoup. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, jante fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les rosseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur la première qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle s'approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire ne souffre et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue !» Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Les grenouilles de se plaindre, et Jupin de leur dire « Eh quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre ?» Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût désbonnaire et doux. De celui contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez, et l'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu je sortirai. Après quoi je t'en tirerai. » « Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurai jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un bon serment pour l'exhorter à patience. « Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts. » Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. L'aigle, la lait et la chatte. L'aigle avait ses petits en haut d'un arbre creux. La lait au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'accommoder, moyennant son partage, mère et nourrisson faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit « Notre mort !» au moins de nos enfants, car c'est tout en mer, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fuir incessamment cette maudite lait et creuser une mine, c'est pour déraciner le chêne assurément et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés. Qu'ils s'en tiennent pour assurés. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. Au partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où la lait était en gésine. Ma bonne amie et sa voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de ne rien dire. Son courroux tomberait sur moi. Dans cette autre famille, ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pour voir aux besoins de ses petits. La lait encore moins, saute de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal en cas de mine, la lait en cas d'irruption. La faim détruisit tout. Il ne resta personne de la gente marcassine et de la gente aiglonne, qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Qui ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse? Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qui a meilleur droit tout l'univers abhorre, c'est la fourbe, à mon avis. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut où toujours il revient. Honte, ni peur, ni remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelques exemples. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moindre de leurs courses qui sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps. Un luminaire, un drap des morts. « Oh ! » dit-il, « qu'est ceci ? Ma femme est-elle veuve ?» Là-dessus, son épouse, en habit d'Alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient en prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaudon propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. « La sellerie du royaume de Satan, » reprit-elle, « et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. » Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire. La goutte et l'araignée. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étreintes et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes. Accommodez-vous ou tirez. « Il n'est rien, dit la ragne, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son loisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant « Je ne crois pas qu'en ce poste, je chôme. Ni que d'en les loger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » La ragne, cependant, se campe en un lambris. Comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie. Travaille à demeurer, voilà sa toile ourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Aucune toile tissue, aucun coup de balai, autre coup de balai. De pauvres bestions tous les jours déménagent. Enfin, après un vain essaim, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse mille fois que la plus malheureuse araigne. Son hôte l'a menée tant au fendre du bois, tantôt fouillir, ouer, goutte bien tracassée et, dit-on, à demi-pensée. Oh, je ne saurais plus, dit-elle, y résister. Changeons, ma sœur la ragne. Et l'autre d'écouter. Elle la prend au mot, se glisse en la cabane, point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger chez un prélat qu'elle condamne à jamais du lit de bouger. Cataplasme, Dieu sait. Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement de changer de logis. Le loup et la cigogne. Des loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de frairie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt, voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou ? Alors vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Le lion abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. » Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » Fit-il pas mieux que de se plaindre ?